Donc, après Libération 21, notre 21 jours de jeûne et prière, notre dimanche de Pâques merveilleux qu'on a eu la semaine passée, n'est-ce pas? On reprend notre série dans le livre de 1 Jean qu'on a intitulé « Validé ». Et on veut se rappeler ce matin que la lettre de 1 Jean a été écrite pour rassurer les gens. Les gens à qui Jean allait écrire, mais pour nous rassurer, nous aussi, par rapport à la foi chrétienne. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? Et ce que Jean va leur dire, c'est que vous êtes bel et bien des chrétiens si vous avez cru le message que vous avez reçu, c'est-à-dire l'Évangile que vous avez entendu. Et puis la raison pourquoi Jean va venir les rassurer, c'est parce qu'il y a des gens dans l'Église qui viennent puis ils vont dire des faux enseignements, des choses qui sont fausses. Et là, les gens sont comme mélangés. Ils savent plus trop qu'est-ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils ont cru. Est-ce que c'était vraiment la vérité? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui était intervenu dans leur vie? Donc, tout ce qu'on entend dans cette lettre, tout ce qu'on lit ensemble, ce qu'on voit ensemble, ça a été écrit premièrement pour rassurer les gens. Soyez rassurés. Puis, une des choses qu'on a vues, puis c'est pour ça qu'on a appelé cette série-là « Validée », si vous vous souvenez, est-ce que tu as ton code de validation? Bien souvent, quand tu essaies de rentrer dans un compte équivalent quelque part, qui est comme un peu sécurisé, ben on veut savoir si c'est toi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va dire, va voir ton courriel, va voir tes textos, ton téléphone. Tu viens de recevoir un code de validation. Et quand tu rentres ce code-là, eh bien, tu peux rentrer dans ton compte parce que c'est toi. On a authentifié que c'était bel et bien toi. Et qu'est-ce qui fait qu'en tant que chrétien, on peut avoir cette validation-là, être certain que ce qu'on croit, c'est vrai, que Jésus est vraiment intervenu dans notre vie et puis qu'on peut avoir cette assurance-là, que c'est pas à recommencer à tous les jours. Le code de validation, il sert pas à te faire recommencer. Au contraire, c'est un code qu'on te donne parce que c'est toi, parce que tu es cette personne-là. Donc, parfois, on peut se questionner à savoir, peut-être même à douter de la foi. Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que Dieu est fier de moi? On peut se poser plein de questions comme ça. Et c'est là que Jean nous donne nos codes de validation. L'amour de ton prochain. Croire en Jésus qui est mort à la croix pour te réconcilier avec Dieu, pour te donner une nouvelle vie. Il y a aussi l'Esprit qui te rassure et qui te rappelle constamment que tu es un enfant de Dieu. Et ces choses-là sont répétées à maintes reprises dans la lettre. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que le message que Jean va nous dire, c'est rappelez-vous le message que vous avez entendu au commencement, que vous devez vous aimer les uns les autres. Et on a déjà regardé un peu plus tôt dans la lettre le même commandement, le même appel de Jean qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais ce commandement-là, cette fois-ci, il va en profondeur pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire d'aimer notre prochain. En fait, qui est notre prochain? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer notre prochain? Et qu'est-ce que ça nous donne d'aimer notre prochain? Mais je sais que parfois, quand on lit notre Bible et qu'on a ces commandements, ces instructions-là qui nous sont données, une des choses que ça peut créer en nous, même que si, et c'est pour ça, je suis revenu sur le thème de valider. Même si parfois on lit des passages et que ça devrait nous rassurer, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir nous, peut-être, accuser notre conscience. Aime ton prochain. Peut-être que à l'intérieur de toi, tu entends juste cette phrase-là puis t'es comme, tu te souviens la chicane que tu as eue avec telle personne il n'y a pas si longtemps. Tu te souviens de la personne que tu as jugée dans ton cœur parce qu'elle a dit quelque chose que tu n'étais pas d'accord. Et là, notre conscience va nous accuser. Et si on est honnête, quand on lit notre Bible, on lit des choses comme ça, puis vraiment, Jean, c'est ce qu'il fait ici. Il va dire, aimez votre prochain, puis je vais vous dire à quoi ça ressemble d'aimer votre prochain. Si t'aimes ton prochain, tu vas être prêt à mourir pour cette personne-là. Si t'aimes ton prochain, tu vas être prêt à donner ce que t'as parce qu'elle en a besoin. Si t'aimes ton prochain, tu vas en faire, c'est comme, là, tu te dis, OK, si j'aime mon prochain, là, t'es en train de dire, OK, mais ce que Jean est en train de dire ici, c'est, si t'aimes ton prochain, tu vas être parfait dans tes relations avec les autres. Et puis, la Bible nous dit ça, mais en même temps, on est tous conscients, et on serait tous d'accord ici ce matin, qu'il y a personne ici qui a jamais été capable d'aimer son prochain de cette façon-là, parfaitement. Jean nous parle de la profondeur de cet amour-là. Ici, il nous dit que cet amour-là, il est possible, eh bien, c'est sûr qu'on veut la rechercher, on veut la poursuivre. Mais on veut aussi être réaliste, que c'est pas par nos propres forces qu'on peut y arriver. Et même ce qu'il va nous dire, c'est que c'est même pas en mesurant à quel point que t'es bon là-dedans que tu vas pouvoir être validé comme enfant de Dieu. C'est pas ça qui te valide. Il y a un pasteur qui a dit, si nous ouvrons nos cœurs à la pleine puissance de ses paroles, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même, sois prêt à mourir pour ton prochain, sois prêt à donner de ce que tu as à ceux qui en ont besoin. Si on ouvre nos cœurs à la pleine puissance de ses paroles, elles nous ébranlent. Car tous, sans exception, ont manqué à l'amour parfait que Jésus-Christ nous a révélé. Donc oui, on veut le mettre en application. Mais si on a l'impression en même temps que c'est impossible d'aimer de cette façon-là à tout moment dans notre vie, ou même qu'on peut se poser la question, mais qui sont les chrétiens, les vrais chrétiens? C'est pas moi, ça. Mais en fait, les vrais chrétiens, c'est ceux qui ont mis leur confiance et qui ont cru dans celui qui est venu sur cette terre et qui nous a aimés parfaitement. Et l'amour qu'on a reçu de Jésus, c'est cet amour-là qui nous permet d'aider notre prochain. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Jésus est venu nous aimer parfaitement jusqu'à mourir sur une croix pour nous réconcilier avec Dieu. L'exhortation de nous aimer les uns les autres, c'est un commandement, c'est un encouragement, c'est aussi une consolation. C'est pas juste quelque chose à faire qu'on a besoin d'être stressé parce qu'on a de la difficulté à le faire. Au contraire, Jean va utiliser ça pour nous montrer. On n'est peut-être pas arrivé, on n'est peut-être pas parfait. Mais ce désir-là dans notre cœur qui grandit, nos relations qui grandissent, notre désir d'être insatisfait avec là où sont nos relations, tout ça, c'est un encouragement qui témoigne à notre cœur que Jésus est vraiment dans notre vie puis qu'il est en train de faire quelque chose en nous, qui nous a réellement qui a réellement fait de nous ses enfants. Donc, notre amour pour les autres nous donne de l'assurance dans notre relation avec Dieu. Aimer les autres, c'est un amour qui rassure, qui nous rassure. Aimer, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et pour regarder ça ensemble ce matin, on va regarder dans 1 Jean, on va commencer au chapitre 3, les versets 11 à 15 pour débuter. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc, ce matin, on va commencer avec, dans le fond, Jean nous donne deux exemples. Il va nous donner un exemple humain imparfait à ne pas suivre. Il va nous donner un autre humain qui a marché sur la terre, mais que lui est venu puis a été parfait dans tout ce qu'il a fait et dans son amour pour nous, c'est Jésus. Mais il débute avec Caïn. Caïn et Abel, deux frères qu'on voit au tout début de la Bible, dans la Genèse, c'est les deux premiers frères, puis ils se sont chicanés. Puis c'est la première chicane entre frères qu'on voit dans la Bible. Puis ce qu'on sait de ces frères-là, c'est qu'il y en a un qui était cultivateur, qui cultivait des légumes, des fruits, tout ça, qui cultivait la terre. Et l'autre était un berger qui avait des troupeaux de brebis. Et à un moment donné, les deux frères ont fait un sacrifice à l'Éternel. Caïn, le cultivateur, a pris des fruits, des légumes, des trucs, il les a offerts en sacrifice, en une offrande à l'Éternel. Et puis Abel, le berger, a pris les premiers-nés de son troupeau puis les a offerts à Dieu. Et ce que l'histoire nous dit, c'est que Dieu a regardé favorablement le sacrifice d'Abel, tandis qu'il n'a pas regardé favorablement le sacrifice, l'offrande de Caïn. Et puis, la réaction de Caïn, ça a été assez décisif, assez drastique. Il s'est mis en colère. Dieu l'avait averti. Il dit, Caïn, mets-toi pas en colère. En réalité, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est, tu l'as pas fait de la bonne manière, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, tu l'as pas fait avec un bon cœur, mais repens-toi, fais le bien, puis ça va bien aller. Tu vas pouvoir te relever. Mais si tu restes dans ta colère, si tu agis mal, le péché t'attend et ses désirs vont se porter contre toi. En d'autres mots, si tu agis sur ta colère, tu vas suivre tes désirs, tu vas faire à ta tête, puis tu vas faire quelque chose que tu vas regretter. Maintenant, on ne sait pas pourquoi exactement Caïn et Abel, qu'est-ce qui a fait que l'offrande de un était acceptée et l'autre non. On n'a pas tous les détails, mais le livre d'Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abel a donné un sacrifice meilleur que celui de Caïn. C'est par cette foi en Dieu qu'Abel a été déclaré juste et que Dieu a regardé son offrande favorablement. Est-ce que Caïn et Abel savaient comment ils devaient faire des sacrifices? Est-ce que Dieu leur avait déjà dit qu'ils devaient tuer des animaux pour les présenter devant Dieu parce que c'était tout le système de sacrifice qui allait venir plus tard pour le peuple juif? Est-ce que Caïn et Abel savaient que Dieu aimait ces genres de sacrifices-là qui démontraient qu'une vie devait être sacrifiée pour le pardon des péchés, pour le salut? On le sait pas parce que le texte nous le dit pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que peut-être que c'est ça, peut-être qu'ils savaient comment ils devaient faire le sacrifice, puis quand il a dit non, moi je le fais pareil comme que je veux, puis Dieu a dit mais j'aime pas ça. Mais ce qui est certain, c'est que Caïn l'a pas fait avec foi. Il a pas fait ce sacrifice-là, cette offrande avec foi en Dieu, mais par ses propres forces. En utilisant ses propres moyens, et Dieu lui a dit non, ce n'est pas ce que je veux. Et en réalité, il y a toujours deux façons de répondre à Dieu dans nos vies. D'abord, c'est par la foi. Quand on croit que Dieu est le créateur de toutes choses, celui qui nous a fait, celui qui est notre maître, qui est notre roi, puis qu'aujourd'hui on peut dire que c'est lui qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie en lui. Puis par cette reconnaissance-là que Dieu est notre Dieu, qu'il est notre sauveur, eh bien, la façon de répondre à ça, c'est de dire, ben, Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux t'adorer. Peut-être qu'on ne sacrifie plus des animaux ou qu'on n'offre plus des offrandes de cette manière-là, mais ma vie, je veux te l'offrir comme une offrande. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Dis-le-moi, Seigneur, et je veux t'obéir. Ou l'autre façon, c'est de dire, je vais vivre comme sans Dieu, séparé de Dieu. J'ai pas besoin de toi. Je vais faire les choses à ma manière, pour moi-même, puis c'est moi qui vais décider comment vivre. Et c'est ce que Caïn a choisi de faire, les choses à sa manière. Pas avec un esprit de foi sincère, pas avec un esprit d'obéissance, de repentance, mais bien avec un esprit de rébellion et d'autosuffisance. Quand il a vu qu'il avait pas ce qu'il voulait, pour utiliser un bon français, ben Caïn, il a snappé. Il s'est mis en colère. Il était jaloux. Et dans sa jalousie envers son frère, il a décidé de tuer son frère Abel. David Paulson, qui a écrit le livre « Good and Angry » sur la colère, a défini la colère de cette manière. La colère, c'est une réponse active. Elle agit. Elle répond à une situation, une personne, à un événement perçu comme étant problématique ou injuste. La colère suppose que quelque chose ne va pas. En réalité, ce qui est vraiment important de réaliser quand on pense à la colère, c'est que la colère, c'est pas quelque chose d'automatiquement mauvais. Au contraire, c'est Dieu qui nous a donné ça. Il nous a donné ce sentiment pour qu'on puisse se mettre en colère quand il y a une injustice, quand quelque chose est mal, quand il y a quelque chose qui va pas. Il nous a créés pour qu'on puisse être capable de dire « Wow, minute, ça va pas, faut arrêter ça, faut réparer ça. » Le problème, c'est que quand on s'est séparé de Dieu, on s'est plus posé la question « Mais qu'est-ce que toi, Dieu, tu trouves mal? Qu'est-ce que toi, Dieu, tu n'aimes pas? » Au contraire, on a défini nos propres injustices. Les trucs qui nous dérangent, nous, sont les choses qui nous mettent en colère. Donc, la colère révèle ce que nous considérons comme juste, injuste, bon, mauvais, important dans nos vies. Et même si, par exemple, quelqu'un était injuste envers nous-mêmes, bien souvent, notre réaction à cette colère-là, ça va être de faire payer la personne, de faire du mal. Donc, on peut réagir à une bonne colère. On peut avoir une bonne colère, donc réagir à une vraie injustice, mais pas réagir de la bonne manière. Donc, sans Dieu, on a la même capacité de se mettre en colère, mais au lieu d'appeler mal ce que Dieu appelle mal, on appelle mal ce que nous, on trouve mal, ce qui nous fait du tort, ce qui nous fait du mal, que ce soit justifié ou non. Donc, la colère, c'est un excellent sentiment pour savoir qui est-ce qui est le plus important dans nos vies. Est-ce que j'adore Dieu ou est-ce que j'adore moi? Caïn a fait un sacrifice à Dieu, mais son attitude a démontré qu'en réalité, Caïn faisait un sacrifice à Caïn et qu'il voulait la bénédiction de Dieu plus que la relation avec Dieu. Caïn adorait Caïn et quand Dieu l'a repris, il n'a pas vu l'opportunité de se repentir, de demander pardon à Dieu, mais il a agi sur sa colère. Et il a tué son frère. Donc, Jean va dire que nous aimer, s'aimer les uns les autres commence par reconnaître qui est au centre de nos priorités, qui est le plus important, qui est-ce qu'on est en train d'adorer. Parce que si tu détestes ton frère, c'est une démonstration parfaite que tu es au centre de ta vie et non Dieu. Pour nous, la colère, le ressentiment, l'amertume, c'est une occasion de nous tourner vers Dieu. Parce que comme Jean le dit, on est passé de la mort à la vie. On a connu l'amour de Dieu et on est maintenant des enfants de Dieu qui faisons partie de sa famille. Dieu nous a révélé qui il était. Dieu nous a pardonné, il a fait de nous ses enfants, il nous a sauvés et il nous donne la capacité de reconnaître ce que lui, il trouve mal puis ce que lui aime pas pour qu'on puisse soit vivre comme il nous le demande ou nous repentir quand on vit pas comme il nous le demande. Donc, être vivant, c'est connaître Dieu et l'adorer en aimant les autres. Le sacrifice agréable à Dieu, adorer Dieu, c'est aimer son prochain. On sait qu'on est passé de la mort à la vie parce que Jésus nous a donné une nouvelle vie. Et Jésus fait de nous des êtres remplis d'amour. Comment? Bien, en nous aimant le premier. On va lire ensemble les prochains versets à partir du verset 16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, si notre prochain, c'est tous ceux qui sont autour de nous, si on est appelé à nous aimer les uns les autres et à pas entretenir de la haine ou de l'amertume. Si Dieu, ce qu'il nous demande, c'est aime ton prochain. Puis c'est vraiment intéressant parce que Jésus va dire, quelqu'un a demandé à Jésus, c'est qui mon prochain? Puis Jésus, sans vous raconter cette histoire-là ce matin, mais c'est l'histoire du bon Samaritain, va prendre la personne, va répondre en disant, la personne que tu devrais aimer, qui est ton prochain, il va prendre la personne que cette personne-là qui a posé la question allait probablement détester le plus. Ton ennemi, là, le Samaritain, c'est lui ton prochain. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, à pas entretenir de la haine. Mais comment faire ça? Et jusque où le faire? Parce que si on a l'exemple à ne pas suivre de Caïn, Jean nous rappelle comment on a été aimé et comment on a connu l'amour. Vous avez connu l'amour. Le verset 16 dit, Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. La manière qu'on a reçu l'amour nous rend capable d'aimer notre prochain. D'une manière qu'on n'aurait peut-être jamais pensé qu'on aurait pu aimer. Peut-être qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu pardonner quelqu'un, aimer quelqu'un de cette manière-là, mais parce qu'on a goûté à l'amour que Jésus a eu envers nous, Jésus nous rend capable d'aimer notre prochain. Quelqu'un m'a dit un jour, Dominique, il y a au moins une histoire dans laquelle j'étais le coupable et j'ai fait du mal à quelqu'un. Oui, dans notre vie, dans nos relations, il y a plein de fois où on s'est fait blesser, où il y a des gens qui nous ont fait du mal. Il y a plein d'injustices qu'on a vécues et ça fait vraiment mal, ces situations-là. Mais il y a au moins une histoire dans laquelle j'étais le coupable. Puis j'ai fait du mal à quelqu'un. Parce que quand on pense à aimer notre prochain, aimer les autres, c'est vraiment facile d'aimer les gens qui pensent comme nous, n'est-ce pas? C'est facile d'aimer la personne qui prend pour la même équipe de hockey que moi. C'est facile d'aimer la personne qui va voter comme moi demain. Parce que là, on finit la campagne électorale, puis je suis sûr que dans les dernières semaines, vous avez parlé de politique à deux ou trois personnes. Puis quand on parle de politique, habituellement, ça va toujours bien. On se chicane jamais. On est toujours d'accord avec les autres. Vous voyez, demain c'est les élections, on va aller voter et tout ça. Mais ce que Jésus nous demande, ce que Jésus est en train de dire, c'est que, oui, il y a des gens que c'est facile à aimer, c'est facile d'aimer les gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes opinions que nous, les gens qui nous ont jamais blessés, les gens qui nous ont jamais fait du tort, les gens qui ont les mêmes convictions que nous. C'est facile d'aimer ces personnes-là. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « Aimez-vous les uns les autres. » Pas juste celle qui pense comme toi, pas juste celle qui va voter comme toi, pas juste celle qui t'a jamais fait du mal, mais aimez-vous les uns les autres. Cherchez à vous réconcilier. Cherchez à, OK, on va accepter qu'on n'est pas d'accord sur toutes ces choses-là, mais est-ce qu'on a de l'amour l'un pour l'autre? Est-ce qu'on a du respect? Est-ce que je suis capable de t'inviter à ma table pour qu'on prenne un repas ensemble et qu'on puisse jaser? Est-ce qu'on est capable d'adresser quand on s'est fait du mal et qu'on peut se dire, OK, c'était peut-être trop cette fois-là? La personne qui a raison, c'est pas la personne qui fait le bon choix, parce que est-ce qu'il y a un bon choix? Dans bien des choses, il y a des opinions. Mais ce qui est toujours le bon choix, c'est de décider, de choisir que je vais aimer la personne, même et surtout celle qui pense pas comme moi. Je vais prier pour telle et telle personne. Parfois, ça pourrait être, on regarde la télé, puis là, on entend quelque chose, puis on a du jugement dans notre cœur. Je vais prier pour ces personnes-là. C'est des moments où Dieu nous montre. Et c'est précieux quand même. On voit que notre amour est limité, on voit qu'on manque d'amour, mais que Dieu nous dit, hey, là, tu viens de manquer d'amour. Là, tu viens de juger. Là, tu viens de te mettre en colère, mais plus par peur que par justice. Prie pour cette personne-là. Demande à Dieu comment tu peux l'aimer davantage. Parce qu'il y a au moins une histoire où on était le coupable et on a fait subir une injustice, où c'était notre faute à nous. C'était nous qui étions dans le tort. Et c'est quand j'ai envoyé Jésus sur la croix. Jésus est mort à cause de mes manquements, à cause de ma rébellion contre Dieu. Parce que comme Caïn, mon cœur était porté vers moi et mes désirs. Puis la Bible dit que ce qu'on mérite, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, la souffrance éternelle. Mais Jésus est allé sur la croix. Il a accepté d'aller sur la croix à ma place pour que je puisse être réconcilié avec lui. C'était de ma faute, c'était moi le coupable, mais lui a accepté de pas regarder ça puis d'y aller pour que moi je puisse reconnaître que j'ai besoin de Dieu, pour que je puisse me réconcilier avec lui et vivre en paix avec lui pour toujours. Et quand je pense à mes relations, c'est en pensant à cette histoire que je veux considérer toutes mes relations. C'est en pensant à cette histoire où j'étais le fautif, puis que quelqu'un, un innocent qui est venu à ma place pour porter la condamnation, pour porter le résultat de mes péchés, pour prendre ma conséquence, pour qu'on puisse être en relation l'un avec l'autre et pour que je puisse vivre avec lui pour toujours. Quand je pense à mes relations, souvent ça va être « Ah, c'est de sa faute. Ah, c'est il a dit ça, elle a dit ça. » Non, je veux réfléchir premièrement. OK, mais dans l'histoire où c'était toi le coupable, comment est-ce que Jésus a agi envers toi? Parce que c'est comme ça que je veux que tu puisses agir envers les autres. Et c'est de cette manière-là qu'on peut se sacrifier pour les autres. C'est de cette manière-là qu'on peut, comme Jean dit, être prêt à vous sacrifier les uns pour les autres, mais à tout le moins être prêt à donner de vos biens à ceux qui en manquent. Être prêt à aimer en parole et en action. De dire, c'est beau de dire « je t'aime », mais si je t'aime puis je te vois que tu as faim puis je te donne pas à manger, je suis en train de te dire que je t'aime pas en fait. Nos actions parlent plus fort que nos paroles. On veut aimer en action et en vérité. Puis ça, c'est toujours les deux ensemble. Et c'est ce qui est difficile parfois. Parce que quand on parle d'opinions différentes ou même des fois de ce que je crois par rapport à la parole de Dieu, que j'interagis avec quelqu'un qui croit pas ça pas en tout, puis que là, je dis « OK, Dieu m'appelle à dire la vérité, mais dans l'amour, dans la douceur, par amour pour cette personne-là, dans le but de la gagner. Puis si cette personne-là a faim, si cette personne-là est dans le besoin, je suis appelé à prendre soin d'elle. Avoir un cœur qui désire voir cette personne-là connaître Jésus. Imaginez-vous ce matin que on est sur le boulevard Grébert, on est assis, bon, en ce moment, on est sur le boulevard Grébert, mais mettons un petit peu plus bas, on est assis sur le bord de la route puis on attend l'autobus. À un moment donné, on est assis là, puis on regarde, puis il y a quelqu'un qui traverse la rue, puis malheureusement, il y a un accident, cette personne-là, elle se fait frapper. Elle meurt. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis il dit, hey, je sais c'est qui la personne qui était là, puis cette personne-là, elle a fait ça pour toi. Puis là, t'es là, puis tu dis, OK, mais moi, je suis assis ici, je traversais pas la rue, je comprends pas ce que tu veux dire, elle a fait ça pour moi. Ça a comme pas de sens. Mais là, tu dis, réimaginons cette histoire-là où est-ce que moi, j'ai mon téléphone dans mes mains, je suis en train de lire mon téléphone, j'ai probablement des écouteurs aussi, puis là, je traverse la rue sans regarder à gauche puis à droite, il y a des autos qui s'en viennent. Puis à un moment donné, je sens qu'il y a quelqu'un qui me pousse dans le dos de toutes ses forces, puis là, je tombe quelques pieds plus loin, quelques mètres plus loin dans la rue, je me retourne de bord puis je vois l'accident qui se produit. La personne a donné sa vie pour moi et on pourrait argumenter pour ma stupidité, pour mes manquements, pour le fait que j'étais pas à mon affaire à ce moment-là, la personne a quand même dit je vais me sacrifier pour lui. Comment est-ce que cet acte-là, de ce sacrifice-là m'appelle à vivre le restant de ma vie ou est-ce que je suis conscient que ce que je mériterais ou ce que je devrais être en ce moment, c'est mort? Mais si je suis vivant, c'est parce que quelqu'un m'a aimé assez pour me sauver la vie. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Je vais inviter l'équipe de louange à joindre à moi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et non seulement c'est ce qu'il a fait pour nous, mais là, Jean, il nous dit, l'amour que tu as reçu, c'est l'amour que tu donnes. Et c'est cet amour-là qui rassure ton cœur devant Dieu. Verset 19 dit, « Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu, devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Même si notre cœur nous condamne, « Ah, oh, j'en fais pas assez. Ah, oh, j'obéis pas assez. Ah, oh, je manque d'amour. » Vous savez, c'est possible que notre conscience nous accuse parce qu'on a fait le mal, parce qu'on a réellement manqué d'amour. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans 1 Jean, au début, quand on a commencé la série Validée, ça dit que si vous avez péché, confessez vos péchés, car il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Quand notre conscience nous accuse, on est appelé à aller à la croix, au pied de la croix de Jésus, d'aller voir le Seigneur Jésus, puis dire, je te demande pardon, je confesse mon péché, je veux me repentir. Mais peut-être que c'est aussi parce que si tu t'imagines que tu vas toujours être capable, puis que tu bases ta spiritualité sur tes efforts, sur tes actions, tu vas jamais arriver à être satisfait. Tu vas toujours, ça va jamais être assez. Mais par contre, celui qui te connaît, c'est celui qui est mort pour toi. C'est celui qui a aimé parfaitement. C'est lui qui te dit, puis on peut le lire ici au verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qui nous a donné. L'Esprit qui est en nous, qui nous rappelle que cet amour-là, on l'a reçu. Dieu nous connaît parfaitement. Il sait qui on est. Il sait ce qu'on a fait. Mais il sait que si on est ses enfants, c'est pas à cause de tout ce qu'on a fait, mais c'est à cause de ce que lui a fait pour nous. Vous êtes passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour vous. Et devant, c'est votre conscience qui vous accuse. Vous avez soit besoin de demander pardon à Dieu, ou soit vous dire, ah non, c'est vrai, je suis pas chrétien à cause de toutes mes actions. Je suis chrétien parce que Jésus m'a sauvé. Et grâce à lui, je peux voir que je grandis. Je peux voir que je grandis dans mon amour. Je peux voir que je suis insatisfait dans mes relations puis que je veux que ça soit meilleur. Puis je peux voir que quand je me mets en colère ou quand il y a de l'amertume, je suis pas bien puis je veux te demander pardon. Il y a de l'amour qui grandit en nous à cause de ce que Jésus a fait. Donc, comme enfant de Dieu, faut pas tout d'abord regarder à nos actions, mais faut toujours regarder à l'action de Dieu envers nous, puis de voir les effets dans notre vie. Puis de pas faire comme Caïn, si Dieu nous convainc qu'on a fait le mal, de pas juste dire non, je continue à faire ce que je veux. Au contraire, on veut se repentir pour pouvoir vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Donc, cet amour qu'on a les uns pour les autres, c'est cet amour qui nous rassure. Qui nous rassure qu'on est ses enfants, qui nous rassure qu'il est mort pour nous et qu'on grandit. Soyons rassurés par cet amour qui nous donne la paix avec Dieu, qui nous donne cette intimité avec Dieu. Et même que plus on est conscient de cet amour et plus on grandit dans son amour, plus on réalise qu'il est avec nous. Et même, ici on lit au verset 22, je vais terminer avec ça, mais... Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Plus on grandit dans notre relation avec Dieu, ça paraît même dans les prières qu'on va faire. Parce que c'est plus juste comme quelqu'un qui dit, moi, je veux ta bénédiction, Dieu, puis c'est bien de vouloir la bénédiction de Dieu. Mais c'est qu'on veut premièrement avoir la présence de Dieu, la communion avec Dieu, un Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne. Puis, plus on grandit dans cet amour, et bien plus nos prières vont être empreintes de ce que Dieu veut et non pas de ce que moi je veux. De ce que Dieu demande. Parce que sa justice va devenir ma justice. Ce que lui aime va devenir ce que j'aime. Ce que lui déteste va devenir ce que je déteste. Et ça va grandir de plus en plus dans nos vies. Donc soyons rassurés, soyons dans la joie que son amour en nous, notre amour pour les autres, nous rassure qu'on est ses enfants. Et qu'on est avec lui. Je vais prier. Merci Jésus pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que ton sacrifice à la croix continue à avoir un effet dans nos vies aujourd'hui, dans la vie de ceux qui te rencontrent. Seigneur, fais-nous grandir dans notre amour. Montre-nous ce matin où est-ce que tu veux qu'on aime davantage. Peut-être que tu nous convaincs ce matin qu'il y a une relation qu'on a besoin d'adresser. Peut-être que tu nous convaincs ce matin qu'il y a une personne dans le besoin qu'on connaît, qui a besoin d'aide. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse aimer comme tu nous as aimés. Qu'on puisse être motivé par ton amour envers nous pour pouvoir aimer les autres comme tu nous as aimés. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Et merci de ne pas nous laisser à nous-mêmes, mais de nous accompagner dans tout ça. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.